Ok, donc ton sujet, Yoshua.
Ce matin, on parlait d'un sujet qui concernait le droit de corriger les enfants. On disait que David Hamel, je crois, il avait parlé de ce sujet, je ne sais plus dans quel contexte. Et je faisais remarquer que ce qui était vrai pour David Hamel ou du temps du passé, puisqu'on revient très souvent sur la Yerida Tadorot, que les gens à l'époque y comprenaient mieux, ils étaient plus près de la source, ils étaient plus kadosh quelque part, ils pouvaient mieux adapter la Torah à leur propre vie. Alors je me disais qu'il y avait des cas, on en a vu certains, notamment le fait par exemple de pouvoir tuer un homme qui est en train de faire la Avodah Zara. Aujourd'hui c'est pas applicable parce qu'il n'y a personne qui peut le savoir. Et je me disais que parfois on pouvait justifier des règles comme celle de corriger ses enfants parce que c'était vrai avant, aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, quels sont les parents qui sont vraiment capables de porter un jugement pertinent sur quand est-ce qu'il faut corriger,
Qu'est-ce
comment
que
il faut
tu veux dire
corriger?
par corriger? Qu'est-ce que tu veux dire
Frapper,
à frapper, tu veux dire corriger
exactement.
avec les mains.
Voilà. Alors, je voulais savoir déjà quelques exemples de cas où, à l'époque, c'était envisageable que certaines règles soient appliquées, notamment celle de pouvoir tuer quelqu'un qui est Zara, parce que justement, on était dans un autre niveau spirituel. Est-ce qu'il y a quelques exemples? Parce qu'il paraît qu'il y en a très peu. Mais je me souviens, enfin de mémoire, que vous en avez cité quelques-uns. Et après, peut-être l'appliquer à ce cas des enfants.
Je n'ai pas compris le cas de la mort.
Il y avait le cas de la mort, c'est une personne qui verrait une autre personne en train de faire de la Avodah Zara.
Ah, il y a des
Il
cas dans
pourrait
le
peut-être
Shulchan Aruch,
la
ouais.
ou il
Oh,
pourrait
ouais, bien
tuer
sûr.
directement.
Oh, ouais.
Ou une femme enceinte d'adultère, je crois.
Non,
Un
non,
homme.
non. Bon, il y a des cas dans le Shulchan Aruch qui sont marqués, dans le Shulchan Aruch, que certaines personnes, dans certains cas, on peut aller sans jugement, sans rien, et le tuer dans le marché avec un poignard. Et si on ne sait pas, le Shulchan Aruch te dit, tu t'arranges pour qu'il meure de façon détournée. Bon, ces choses-là ne sont tout à fait pas actuelles. Il est interdit de les pratiquer, c'est absolument certain. De tuer, non, non, peut-être pas. En cas de légitime défense, non. Non, non, non. Aujourd'hui, la loi. Tu parles de la loi. Bon, aujourd'hui, on n'a pas. Depuis 2000 ans. Il n'y a aucune configuration où des rabbinim, une autorité religieuse, quelle qu'elle soit, ou une personne, quelle qu'elle soit, peut appliquer la mort parce que la loi l'a ordonné. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il peut y avoir, un cas de légitime défense, bah, c'est tout. D'après les lois des pays normaux, voilà. À ta question, si je comprends bien, dans quelle mesure on peut frapper les enfants? Eh bien, on peut les frapper. La question, qui, quoi, comment, donc, où? Alors, le verset dont tu parles, j'imagine, c'est marqué Choser Shivto Sone Bno. Celui qui économise son fouet, alors il a la haine de son fils. Bon, je pense que ce n'est pas actuel de prendre un fouet aujourd'hui pour frapper ses enfants, même dans les cas où il sera bien de frapper. Bon, 2 mois, qu'est-ce que c'est? Il y a une notion éducative qui doit être utilisée quand il y a besoin, qui s'appelle la punition. Le meilleur moyen d'éduquer, c'est d'expliquer. Parler à la raison. Le problème est que un enfant, il n'est pas raisonnable. Tu lui expliques une chose, il comprend, mais c'est sa tête qui comprend. Le corps ne suit pas. À l'armée, il y a un dicton, on dit ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. C'est-à-dire, ou on t'explique une chose, tu as compris, ou on te fait courir, à la fin tu comprends aussi. C'est-à-dire, ou on comprend par la tête et un raisonnement, et la tête est suffisamment puissante pour ordonner le corps. Je sais pas moi, un enfant maintenant, on lui dit il ne faut pas voler. On lui explique que ça ne se fait pas, etc., etc. Toute une dissertation sur le vol. Bon, il a compris, t'as compris, il te prend des exemples, il a très bien compris. Rebelote. Récidive. Tu, de nouveau, lui expliques. Re-récidive. Tu lui dis, ok, écoute, je vois que je t'explique, t'as compris, et malgré tout, ça continue. Ça veut dire que Tu parles à la tête a compris. Lui-même, il peut te faire toute une dissertation aussi sur le voir, encore mieux que toi. Mais au niveau de l'envie, au niveau du corps, ça ne suit pas. Donc il n'y a pas de maîtrise de l'esprit sur le corps. Alors il faut parler au corps. Le corps ne comprend pas les dissertations. Le corps comprend deux choses. Ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Voler, c'est agréable. Il faut lui rendre cela plus désagréable. Il y aura plus de désagréments à voler que de ne pas voler. Là arrive la punition. La punition, a priori, devra être non physique. Il est beaucoup mieux de donner une punition éducative, du genre, je ne sais pas moi, faire une dissertation sur le vol, par exemple, ou un truc, casse-pied, d'accord, mais pas qui fait mal. Des fois, il y a besoin des coups aussi. Alors, le grand problème n'est pas le problème de oui ou non donner des coups. Ça, on peut relativement être intelligent et savoir quand il faut donner le dernier ressort, d'accord ? Mais des fois, c'est utile. Le vrai problème est, quand tu donnes le coup, il y a deux choses auxquelles il faut faire. La première, c'est pas le donner avec haine. Pas le donner avec pour se libérer des nerfs que nous avons. Parce que un enfant extrêmement lucide, même à l'âge de 4-5 ans, il comprend très bien. 4-5 ans, c'est déjà bien avant, mais 4-5 ans, il peut même déjà le dire. Est-ce qu'on a frappé maintenant de façon éducative pour éduquer? Et ça, il a besoin. Un enfant a besoin, pour se sentir aimé, qu'on lui mette des limites. Les psychologues racontent des cas d'enfants qu'on n'a pas punis, alors ils faisaient des bêtises, alors eux-mêmes se tapaient la tête dans les murs, faisaient comme ça mal, ils avaient besoin de sentir qu'il y a des limites. Quand on donne des limites à quelqu'un, il se sent en sécurité. C'est sécurisant. J'ai des parents qui m'aiment, qui ne me laissent pas faire tout ce que je veux. Mais quand il voit tout à coup un être hors de lui, qui fait 4-5 fois sa hauteur, imaginez, hein, nous on fait 1m80 on va dire, donc tu as quelqu'un qui fait x5, ça nous fait 9 mètres, un genre de 9 mètres hors de lui qui vient vers toi pour te frapper. C'est assez traumatisant. Et c'est le cas de beaucoup de parents.
Après, quand ils ont dit, il n'y a plus peur de personne parce que plus personne ne fait 9 mètres, après ça devient plus arrêté quand ils
ont dit. C'est ça. Une éducation de ce type-là, elle détruit la personne. Il devient, lui après, il fera la même chose avec avec ses copains à l'école, avec ses petits frères et sœurs. Il devient un caïd. On n'a rien arrangé. On a fait sortir nos nerfs, lui sortira ses nerfs. Ce qu'on montre comme exemple, c'est ce que nos enfants auront tendance à réitérer. Donc s'ils voient maintenant des parents qui ne se contrôlent pas et qui frappent, lui non plus ne se contrôlera pas et frappera. C'est exactement le contraire. Nous, on veut maintenant l'éduquer à se retenir, que la tête maîtrise le corps. Et on montre l'exemple du contraire. C'est le corps qui sait s'emporter et la tête qui ne maîtrise plus rien. Alors, première chose qu'il faut, c'est se calmer. Quand on est bien calme, deuxième chose que je voulais dire maintenant, on va lui expliquer. Lui expliquer, tu as fait un acte qui n'est pas bien, je suis obligé maintenant de te punir, parce que je t'expliquais, tu n'as pas compris, c'est pour ton bien, et rajouter si possible, tu n'es pas quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de très bien, mais ton corps ne comprend pas. Je m'attends à frapper ton corps comme ça qu'il comprenne. Mais toi, il faut pas, parce que c'est très culpabilisant. La punition, elle fait plus de mal au niveau de la culpabilisation qu'au niveau éducatif. Donc on veut déculpabiliser, mais lui faire mal, pour qu'il comprenne que le corps doit comprendre qu'il n'a pas avantage à faire cela. Mais il y a, avec le coup, il y a une culpabilisation qui peut être mauvaise. Donc il faut le dire, et au contraire, nous voulons, si quelqu'un se sent mauvais, il fera des bêtises. Si quelqu'un se sent bien, il fera moins de bêtises. Tu dis à un enfant, tu es quelqu'un de bien, il a envie de faire du bien. Tu lui dis, t'es un méchant, t'es un rachat, t'es un vilain. Il a envie de faire le mal. Donc, ça vaut la peine avant d'expliquer, de donner le coup. C'est pas parce que t'es méchant, tu es quelque chose de très bien, mais t'as fait une bêtise. Donc, je suis obligé de te punir pour cela, pour que tu comprennes mieux. Et tac! C'est un exemple éducatif, ça. Je connais un cas, on m'a raconté, un enfant, les parents l'ont frappé. Et c'est vrai que c'est un piège, ça arrive des fois comme ça. Le père lui a donné deux claques. Alors le gosse, il a dit à son père après, la première claque, elle était, j'ai compris pourquoi, mais la deuxième c'était déjà des nerfs. Je ne sais pas si c'est dans la même terminologie, mais c'est très clair, ils sont lucides les enfants. Et il faut savoir que nous, en tant que parents, dans n'importe quelle configuration où on doit se retenir, que ce soit avec, dans le shambait, avec n'importe qui, quand on laisse la violence s'exprimer, il est beaucoup plus dur de se retenir. Par exemple, dans le couple, il ne faut jamais crier. Ça ne sert à rien. D'accord ? Une chose qui ne va pas, alors le ton commence à monter. Réaction qu'il faut avoir, baisser dans le volume. On va dire, tu te bagarres avec ta femme, tu dis comme si, elle te répond comme ça, tu dis comme ça, elle répond comme ça, tac, tu sens que ça monte. Toi, pour calmer le jeu, commence à chuchoter. Pourquoi ? Parce que si tu continues à parler normalement, alors la tension monte chez toi. Elle monte et la parole se met à vibrer et tout ça, et ça va. Donc pour... Parce que s'il y a une bagarre très dure entre l'esprit qui veut retenir et le bouillonnement intérieur qui veut s'exprimer. Comment retenir le bouillonnement ? Tu baisses artificiellement, tu baisses dans le volume. Ça aide. Maintenant, si tu fais le contraire, par exemple, tu veux maintenant crier sur tes enfants, mais tu es très calme. Mais tu veux leur montrer que tu n'es pas content. Artificiellement, tu mets du volume. Tu cries. Très attention, parce que tu joues un personnage qui, au bout d'un moment, très facilement, tu ne joues plus, tu vis. Quand on crie, on se met en colère. Tu commences à parler comme ça, comme tu n'es pas content, tu cries et tout à coup, hop, tu commences à être énervé vraiment. Aussi avec les coups. Tu donnes un coup, le premier coup est éducatif. Là, déjà, ça t'a entraîné le premier coup à t'énerver. Les nerfs que tu maîtrises, tout à coup, tu ne les maîtrises plus, parce que l'acte, il influe sur l'intériorité, et le deuxième coup, il part déjà avec les nerfs. Ça, il faut savoir qu'il y a une loi générale dans toute notre vie, qui est l'interaction très profonde qu'il y a entre l'intériorité et l'extériorité. Ça veut dire, il y a beaucoup de choses, l'essentiel du travail, c'est un travail intérieur. Travailler l'humilité, travailler la colère, travailler la gentillesse, travailler le pas parler la shonara. Toutes ces choses-là sont des choses, il y a un travail intérieur. Comment faire pour travailler intérieur ? Je veux être humble. Qu'est-ce que je dois faire ? Dire je suis humble. Qu'est-ce que je suis humble ? Je suis le plus humble de toute la terre, d'accord ? Comment on fait pour travailler l'humilité ? Ou calme, il faut rester calme. Pardon ? On se marie. Ouais, mais le mariage, c'est pas. Le mariage, c'est l'épreuve. Alors, c'est vrai, dans les épreuves, si on est intelligent, on apprend des épreuves et des chutes pour se réparer, mais c'est déjà l'épreuve. Mieux vaut déjà. Alors, si on peut se préparer avant les épreuves, c'est bien. Il y a comme à la guerre, tu as d'abord les entraînements, puis après on te met sur le terrain. T'as balle à blanc et vraie balle, d'accord ? Le mariage, c'est les vraies balles, ça ne pardonne pas. On ne peut pas se tromper trop. On peut se tromper, avoir des chutes, mais au bout d'un moment, ça tient plus. S'il y a trop, ça laisse des séquelles, ça fait mal toute la vie. Le seul moyen que nous avons pour travailler efficacement sur l'intérieur, c'est de travailler l'extérieur qui correspond à cet intérieur. Par exemple, je suis orgueilleux. Quelqu'un d'orgueilleux, eh bien, il se vante. Tu verras, dans son langage, il y a... Une fois, j'ai parlé avec un spécialistes dans le langage, d'accord, ils ont des sortes de grilles comme ça. Il y a des mots qui reviennent très souvent. Et d'après ces mots qui reviennent, on peut savoir qui est. Comme, alors, quelqu'un qui est orgueilleux, le moi-je, il revient sur moi, c'est un mot qui revient sans cesse. Ou bien, tu verras, essaye, c'est un travail intéressant à faire, de ne jamais faire des compliments sur soi-même. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait. L'homme a besoin d'entendre qu'il est quelqu'un. Il demande avec la bouche, dites que je suis quelqu'un. Alors comment il dit ? Il raconte ce qu'il a fait, d'accord ? Tous ses exploits, ses beaux exploits dans sa vie. Lashon hara, je me mets en position de juge sur les autres. Il a fait comme tu as vu, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. quelqu'un qui se met en position où il abaisse l'autre, donc ça le remonte. Maintenant, l'orgueil est une chose qu'on ne peut pas travailler en soi. Exactement. Ah, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Comment je peux maintenant arriver à travailler une mida intérieure, un sentiment intérieur, avec l'extérieur? Lorsque quelqu'un de l'extérieur, je peux maîtriser. Lorsque je me force à ne pas me vanter. Lorsque je me force à ne pas parler à la chanara. Lorsque je me force à m'écraser lorsqu'on va contrairement à ma volonté. Ça ne va pas comme je veux. Pourquoi quelqu'un s'énerve? Orgueil. Ça ne va pas comme j'ai envie. On ne m'écoute pas. Ma volonté n'est pas réalisée. Je ne maîtrise plus comme j'aimerais que ça aille. Parce que c'est moi le boss du monde. Le boss de ma famille, le boss de ma classe, le boss de ma boîte, le boss de... D'accord? Et quelqu'un qui ne fait pas comme je veux, ça m'énerve. Le boss du monde. N'importe qui dans la rue, s'il ne va pas comme je veux, il y a des gens qui s'énervent pour un rien. Quoi un rien? Parce qu'il ne peut pas supporter un guili-guili que ça ne va pas comme eux ils veulent. C'est de l'orgueil. Maintenant, je ne peux pas travailler l'orgueil comme ça. Au niveau du sentiment, au niveau de l'amida intérieure. Le seul moyen que nous avons, c'est travailler par l'extérieur. Lorsque tu vas éviter tous les symptômes d'un comportement d'orgueilleux, forcément au bout d'un moment, tu as une bagarre terrible entre le sentiment intérieur d'orgueil qui va s'exprimer et l'extérieur que tu maîtrises, et quand tu gagnes, forcément un des deux doit se plier. Ou l'intérieur va gagner l'extérieur et l'a gagné, et moi je... Et je m'énerve, et tous les symptômes de l'orgueilleux, ou par ce que je maîtrise vraiment l'extérieur, j'arrive à casser l'intérieur et je l'éduque lentement à s'écraser.
Alors même si on ressent de l'orgueil, si on ne l'a pas exprimé extérieurement,
ça travaille.
Alors ça veut dire, on peut quand même se sentir.
C'est certain.
D'avoir réussi
un... Absolument. C'est un grand combat qu'on a gagné.
Il n'y a pas d'hypocrisie?
Non, c'est le travail. Quelqu'un qui est orgueilleux, il aimerait dire moi je, il dit pas moi je. C'est un grand travail. Tu peux être fier de cela.
On peut l'attaquer aussi de l'intérieur.
Comment tu fais pour attaquer de l'intérieur? J'imagine qu'on peut aussi.
On essaie de porter la chance. C'est-à-dire
oui.
Qu'on a plus envie de dire moi je.
C'est qu'on essaie
d'attaquer de l'autre côté en disant c'est Dieu de dire moi je.
Oui. Mais la mida, elle n'est pas... Elle est...
La phrase choque, qui m'explique, ah, c'est clair, c'est vrai. C'est idiot, et j'y pense, et j'oublie, alors je la reprends. Et dans la prière, j'ajoute dans mon petit bourre, et je dis, ah tiens.
D'accord.
C'est idiot, alors
bon.
De ne pas être idiot.
La compréhension, par le raisonnement intellectuel, je comprends qu'il y a en moi une mida qui est mauvaise. Mais, voilà, c'est vrai, c'est un bon moyen aussi, donc, comprendre à quel point l'orgueil, il est nul et mauvais, etc. Du moins qu'on comprend, alors on peut mieux agir sur ces mauvaises pulsions que nous avons.
Alors tout à l'heure, vous disiez que l'orgueil, c'était, par exemple, ne pas être d'accord, le fait que ça va passer contre sa volonté.
De s'énerver, quand on est... De s'énerver.
C'est s'énerver, parce que dans une entreprise, on demande à ce qu'on soit affirmé, qu'on défende nos idées, etc. Donc si on dit oui à tout ce qu'on nous objecte, de côté, on passe aussi pour quelqu'un de...
Non. Moi, maintenant, j'ai une boîte, je suis le boss de la boîte, d'accord? Et pour que ça aille bien, je veux que ça aille comme ça. Maintenant, les employés, un employé, il ne m'écoute pas. Alors, je peux avoir deux réactions. Une réaction éducative, je le remets à sa place et je lui explique. Et je le forme pour faire, je montre où est l'erreur et qu'il ne faut pas faire ainsi, c'est éducatif. Ou bien je m'énerve. Parce que combien de fois je le répétais? Et pourquoi ça m'énerve? De combien de fois je dois lui répéter? Parce que pour moi, il y a un seuil de tolérance qui correspond à mes principes, à moi. Et quand ça ne va pas comme mes principes, ça devient déjà intolérable. Et... Ça légitime la colère. Ce qui est faux, c'est pas tes principes comme toi tu penses qui doivent gérer le monde entier. Pardon ?
C'est quand même moi qui dois.
Mais oui, je dis pas qu'il faut supporter. Je dis pas que le type qui se trompe maintenant dans ta boîte, il fait bien de se tromper. Mais éduque-le. Mets-le dehors, licencie-le, fais ce que tu veux. Mais pourquoi des nerfs ? Pourquoi des nerfs ? Les nerfs, ça n'a rien à voir là-dedans. Rationnellement, il y a un problème, on le règle. Pourquoi des nerfs ? Les nerfs, c'est parce que ça me touche dans mon orgueil.
Thank you.
Je te dis pas, qu'il faut non plus à chaque bêtise le licencier. Il faut voir ce qui est intelligent, mais le faire, ou bien c'est la raison. Les nerfs, c'est le ventre. La raison, c'est la tête. Nous devons faire marcher la tête et non le ventre. C'est une chose qui est extrêmement simple, en tout cas dans le discours.
Pour revenir aux enfants.
Ouais. Revenons aux enfants.
Ma question, elle avait aussi un aspect plus technique, pas forcément sur le fond, corriger les enfants. Moi, je suis assez d'accord, comment il faut le faire. C'était plus de dire, au niveau halakha, on se base sur quoi pour dire qu'aujourd'hui, vu que nous sommes des êtres qui sommes vraiment descendus spirituellement, frapper un enfant, c'est un acte grave, très grave. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre en parallèle avec l'acte de tuer celui qui est en train de faire la Vodazara. En tout cas, l'acte de tuer celui qui est en train de faire la Vodazara, on l'a annulé, parce qu'on est descendu. Comment on sait qu'aujourd'hui, les parents, puisqu'il n'y a pas de permis d'être parent, on va être parent, on voit bien qu'il y a des mauvais parents qui ont des enfants, des bons parents qui n'ont pas d'enfants. Donc, comment on peut savoir comment agir? Est-ce qu'on a le droit de faire ça au niveau de la halakha? Pourquoi on l'a gardé cette halakha et d'autres on les a...
C'est une nuance quand même entre tuer et frapper. Je dis frapper, c'est le dernier recours. Mais il existe aussi. Il existe. Alors je dirais qu'il est clair que ce que dit... c'est David de Malher, c'est le roi Salomon qui dit ça. « Choser shivto son ebno » Celui qui économise de son fouet, alors il a la haine de son fils. Il ne faut pas le comprendre comme à prime abord qu'il faut économiser, ça veut dire « Allez, vas-y, laisse-toi, prends le fouet ». Non, ça veut dire « Lorsqu'il faut frapper, il faut ». Mais alors, la question est maintenant, c'est quand qu'il faut ? La réponse est quand ? Quand est-ce qu'il faut ? Quand il n'y a plus d'autres cours. Tu as parlé, tu as épuisé tous les moyens éducatifs normaux qui sont rationnels. À un moment, il faut parler au corps, c'est tout. Évidemment, alors... Mais si on parle au corps, la douleur, à qui ça parle? Non, la douleur.
Bon, c'est pas le corps.
Ça va, quand je dis le... Ok, quand je parle le corps, je parle pas maintenant de... Bien sûr, ok, la douleur, tout c'est une chose. Ok. En tout cas, la douleur, c'est pas une chose qui est intellectuelle. C'est une chose qui est sensitive. Oui.
La douleur?
Bien sûr.
L'expérience de la douleur, il y a une entité pensante, on a des souffrances psychiques. Des souffrances physiques,
ouais.
c'est toujours une expérience mentale, c'est jamais une expérience du corps.
Tout est mental. Mais dans...
Fait des distinctions, alors ton corps ne comprend pas parce que ma main elle prend le bonbon, alors je frappe le corps, c'est la main qui comprend.
Regarde, c'est ma tête qui comprend. Regarde. Dans le mental, il y a plusieurs parties. Comme on dit très souvent, Nefesh Ruach Neshama, etc. Tu as une partie dans le mental qui est la plus haute, qui fonctionne par un système vrai-faux. Raisonnement, vrai-faux. T'as une autre partie qui est plus basse, qu'on appelle animal, et c'est ce qu'on appelle le corps. Mais c'est pas le corps, c'est pas le steak. C'est la partie sensitive, qui fonctionne plus par souffrance-plaisir. Maintenant, j'explique à mon fils que c'est faux de voler. Il comprend au niveau de la tête, ce qu'on appelle la tête de la neshama. Mais son nefesh, sa pulsion, qui est une pulsion spirituel aussi, parce qu'une pulsion, c'est un morceau de steak n'est pas de pulsion, c'est une pulsion animale. L'envie de voler, l'envie de mentir, l'envie de faire une bêtise, d'accord, est plus forte que le raisonnement qui lui dit que c'est faux. C'est faux, mais je ne me retiens pas. Donc on va maintenant parler, on va faire une pulsion contraire. Tu as une pulsion maintenant d'envie, on va faire que tu n'es pas envie. Comment? On va rendre ça très amer. Plus, c'est-à-dire que lui, dans le calcul animal, c'est le calcul animal, il y aura plus de souffrance à faire cette chose-là que de bonheur à la faire. Voilà. Exactement.
Mais jusqu'où on peut aller?
Il n'y a pas de halakha clair là-dessus. Simplement, comme je dis toujours, avant halakha, il y a l'intelligence. L'intelligence, elle te dit, tu n'as pas le droit de frapper plus que le strict nécessaire. C'est un lave de horaïta. Un lave de la Torah, il y a une... C'est marqué que celui qui lève la main sur son prochain, et sur ses enfants aussi, il faut pas croire, d'accord, alors il est chayav mita. Je n'ai pas le droit, par exemple, dans aucun cas, de lever la main sur un autre enfant que le mien, parce que je n'ai pas un devoir d'éducation. Je peux aller voir, quelqu'un fait une grosse bêtise, je peux aller voir, même s'il nous fait les pires bêtises du monde, tu vas voir son père, lui peut l'éduquer, pas toi. Tu n'as même pas le droit de l'engueuler. Tu n'as même pas le droit de lui faire peur. De quel droit tu fais peur? C'est un être humain à part entière. Maintenant, lui... Quand tu veux lui parler, si quelqu'un vient maintenant, il a un tuteur, il a une mère, il a un éducateur, un petit gosse, il n'est pas comme ça tout seul dans le monde. Tu vas voir le tuteur, le responsable de son éducation. Le bed-in, s'il faut, je ne sais pas.
Quand on a des enfants,
idem, on n'a pas le droit de frapper ses enfants, à moins que ce soit au niveau éducatif. Prends un exemple qu'on a par exemple, faire honte. Faire honte, c'est une chose qui est très grave dans la Torah. C'est comparé à de l'assassinat. Pour l'éducation, on a le droit de faire honte. Mais c'est très, très, très... On est sur un fil très, très fin. Quand oui, quand non, est-ce que c'est nécessaire?
C'est ça toute la question depuis le début, c'est de dire ce fil il est tellement fin qu'on ne sait plus vraiment qui est capable de le voir ou pas. Et dans le doute de faire une erreur. Parce que,
quand c'est nécessaire. Fait, c'est bien ça, c'est clair.
Il y a mon enfant, je lui fais honte en lui mettant une grosse juge. Il a honte. C'est pas éducatif, j'ai passé mes nerfs. Le fil, il est tellement fin
mais ça,
c'est... Part, chacun juge de sa propre action et avec le soutien de la halakha.
Non, c'est clair. C'est très clair. Ce qui est nécessaire, ce qui a une utilité éducative. Par exemple, un problème familial très courant, c'est que le gosse fait une bêtise et tu le réprimandes, mais en public ou devant ses copains ou devant même ses frères et sœurs ou devant, et ça lui fait honte. Pourquoi ? Il faut travailler, c'est une grandeur d'âme, un grand travail en tant que parent, de le prendre de côté. Et là, il lui apprécie beaucoup. Il t'aime pour cela. Il comprend que tu veux son bien. Mais si maintenant tu lui fais honte pour rien, et les enfants aujourd'hui, ils te disent. Alors, les enfants, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus développés qu'il y a 50 ans. Ils te disent clairement, tu me fais honte en public. D'accord, un petit gosse de 5 ans. Mais lavti, en hébreu, d'accord. Alors, il faut arriver à nous en tant que parents maintenant. Je vois qu'il y a une bêtise. Réaction première, je veux m'énerver. Non. Alors, arrêtez la chose. Après, tu vas de côté, tu expliques et tu éduques comme il faut. Et si tu réprimandes, il faut réprimander, pas en public.
C'est rare, les gens qui sont capables de ça.
Pourquoi pas ?
Non, non,
il faut travailler là-dessus. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler.
Mais c'est très dur.
Moi, personnellement, j'ai un moyen qui a marché très très bien avec mes enfants, un moyen coercitif d'éducation après qu'on a épuisé la quand on parle et ça marche pas. Ben, ça s'appelle la buanderie, d'accord. Et la buanderie là-bas, c'est avec je prends, d'accord, comme ça. S'il continue, je te prends. Maintenant, ça marche très bien. Même ma mère était chez moi dernièrement, elle était épatée. Il y avait une fille qui embêtait tout le monde depuis un quart d'heure, 20 minutes. Je lui dis, tu continues comme ça, je prends la buanderie. C'est calme tout à coup. C'est la buanderie. Tu le mets là-bas, il pleure pendant une demi-heure, il peut crier. Toi, tu vas t'entendre lui dire, tu peux sortir dès que tu arrêtes de pleurer. Il se calme tout seul et il ressort. Et voilà. Et d'abord, quelqu'un qui pleure devant toi, ça tape sur les nerfs. Donc, tu mets là-bas, tu fermes la porte. Lui, il peut hurler tant qu'il veut. Voilà, pas dans le noir. Il ne faut pas faire ça chez nous, c'est illuminé par d'accord, dans le noir, ça fait peur carrément. Non, il faut une chose qui soit quelque chose qui le mette lui par rapport à lui-même. Tu n'as pas été méchant, tu l'as mis de côté, il comprend qu'il s'énerve, il s'énerve avec lui-même, il nous casse les pieds, il se casse les pieds avec lui-même, et quand il sera un benanam, un homme normal, bien, il sera mis comme il faut, il ressort, et voilà. D'acheter que chacun ait une banderie chez lui à la maison.
On voit dans la société, dans tous les milieux, il y a des dérapages. Alors déjà dans une société, on va dire la société laïque, où maintenant il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde, c'est interdit.
En France, c'est comme ça, on n'a pas le droit de frapper un enfant, ouais.
Ici aussi.
En Israël, 7 ans de prison.
Voilà.
7 ans, quelqu'un qui témoigne sur toi que tu as flanqué une tarte à ton fils, 7 ans de prison. Et ils sont arrivés, donc je crois, si je ne me trompe pas, les chiffres disent que les États d'Israël est le deuxième pays au monde à avoir le plus de délinquance juvénile. Évidemment, tu laisses faire tout à ton enfant, tu ne peux jamais le... Non, il faut frapper. Mais quand il y a une nécessité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire... Nécessité signifie qu'on ne peut pas faire autrement. Nécessité dans le dictionnaire, nécessité, nécessaire, qui ne peut pas être autrement. Quand tu ne peux pas faire autrement, ça devient nécessaire dans un but éducatif. Pas parce que je ne me retiens plus, ça devient nécessaire.
Ça, c'est à laisser l'appréciation du parent. Et on n'a aucune certitude que les parents ils peuvent avoir sur les zones. Il n'y a pas un permis de parent, donc il ne faut pas passer une licence. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est mieux d'interdire complètement ou de ne pas interdire
non,
du tout ?
Non, je pense que sincèrement, il ne faut pas être trop futé pour savoir quand on doit passer... Il n'y a pas de solution, au bout d'un moment, il faut... comme ça,
vraiment. C'est à partir de quel âge qu'un enfant on doit commencer à le réprimander ? Parce qu'à un an, deux ans, bon...
Bien sûr. Bien sûr. À cet âge, surtout à cet âge-là. Nouveau-né, nouveau-né, nouveau-né. Il faut frapper un nouveau-né. Du moment où il a déjà un minimum, il a un minimum de raison. Et voilà. Voilà. Même quand il a très peu de... un gosse, je ne sais pas moi, il veut mettre son doigt dans la prise électrique. Il a 6 mois. Alors si tu l'aimes, tu prends sa main, tu lui dis non, 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 et tu fais tac, une petite table comme ça. Il va pleurer, mais il comprend que la prise électrique c'est dangereux, c'est tout. Sinon, non, mon fils, tu comprends l'électricité, il y a une différence de volts, ça fait une tension, et il ne comprend pas.
Bon, sinon, alors, c'est très dur de changer d'attitude à partir d'un certain âge, je dirais, bon, elle a 3 ans maintenant.
Nous devons éduquer, c'est-à-dire parler à la raison. Quand il n'y a pas de raison, il faut parler au corps. Le corps comprend la souffrance. Alors, une souffrance peut être criée. Pour un enfant, c'est déjà beaucoup. Quand je dis crier, ça veut dire que tu montes le ton. Tu montes que tu es fâché sans être fâché. C'est difficile d'expliquer. Il y a des pièges. Après, ça peut être, comme je dis, se crisser dans la buanderie ou quelque chose comme ça. Et puis après, si vraiment pas aucune solution, alors les cours aussi. 13-14 ans, c'est... Ouais, ça commence à être... Pardon. Oui, ouais, il y a un âge quand on donne des coups à un enfant, alors ça crée chez lui un esprit de révolte. Et dès 13-14 ans, on commence, c'est très intéressant parce que dans la Torah, comment on appelle l'âge de révolte, d'accord, on appelle ça nar. Nar, c'est un jeune homme, c'est avant l'adolescence, un peu plus avant. Nar, ça vient du mot en hébreu nar, secoué. Les naères secoués, parce qu'ils secouent tout. Va le cadrer. C'est extrêmement dur. Le Stipe leur disait, les gens croient que les enfants sont bien éduqués quand on les éduque bien. Ils disent c'est faux. 40% viennent de l'éducation, 60% viennent de la prière.
Des parents
de... Des parents, pas de lui. Lui va se prier, il va prier qu'il s'éduque bien. Non, que les parents prient. Et quand, avant le mariage, commence déjà. Au mariage, pendant la gestation, la grossesse, et après, il faut prier. Le Stipler, donc ce même Rav, il disait, moi je prie encore pour mon fils. Il avait 80 ans, son fils avait 60 ans. Qui c'était le Stipler? C'est le père du Rav Chaim Kanevski, un des grands de la génération. Il prie encore pour son fils, moi aussi je prie pour mon fils, Chaim Ke, pour qu'il soit quelqu'un de bien, voilà.
Déjà le
hein? Alors qu'il est déjà un des grands de la génération. Bah, Adonai, l'homme, mais...